La mairie vous répond.
La mairie vous répond.
Le nouveau rendez-vous des élus de l'Île-Dieu, chaque premier jeudi tous les deux mois à 18h10 sur Neptune FM.
Troisième numéro de la mairie vous répond. On s'intéresse aux finances de la mairie de l'Île-Dieu. Tour de table des invités. Bonjour Bruno Nourry.
Bonjour.
Vous êtes maire de l'Île-Dieu. Bonjour Bruno Chopin.
Bonjour.
Vous êtes chef des services à la mairie de l'Île-Dieu, c'est bien ça?
C'est ça, exactement.
Bonjour Carole Charot, vous êtes conseillère municipale, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Bonjour.
On commence avec l'endettement de la mairie de l'Île-Dieu. La dette de l'Île-Dieu est de combien à ce jour?
Alors, au 1er janvier 2015, elle est très exactement de 12 700 000 euros.
Est-ce qu'on peut rapporter ça à la dette par habitant ou c'est trop compliqué?
Ouais. On peut toujours la ramener par habitant. Ça fait, si on prend une population à 5000, ça fait 2500 euros par habitant. On a plutôt l'habitude de parler en population DGF.
DGF.
Oui, dotation globale de fonctionnement. C'est en fonction de cette population que l'État nous donne des dotations. Et en fait, il est compté un habitant par résidence secondaire. Donc la population DGF de l'Île-Dieu, c'est 7800. Donc on serait plutôt à 1630 euros par habitant.
Car sur les sites, par exemple, Journal du Net, c'est les habitants qui habitent vraiment sur l'Île-Dieu à l'année.
Ouais, et en fait, c'est un peu... Je ne veux pas dire une erreur, mais les dotations de l'État sont fonction de cette population DGF et tout est ramené à cette population DGF. Donc, pour vraiment se comparer aux autres, il faut prendre cette population DGF. Néanmoins, sur la dette par habitant... Moi, j'aime pas tellement ce ratio parce que il est pas très pertinent. Tout le monde comprendra que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent peut davantage s'endetter que quelqu'un qui gagne très peu d'argent. Donc, c'est pas forcément révélateur de mauvaise gestion ou autre.
Mais ça donne quand même un ordre d'idée, non?
Ça donne un ordre d'idée de l'état de la dette, mais en aucun cas un signe de comparaison. Hein, je préfère qu'on parle de durée de désendettement plutôt que d'endettement par habitant, parce que bon, y a d'autres questions après. J'anticipe sur les questions suivantes, mais on s'aperçoit que si on se compare aux moyennes nationales, on a des budgets de fonctionnement qui sont largement plus élevés, etc. Et en fait, les villes, enfin plus une ville est grosse, plus elle a des budgets de fonctionnement et d'investissement par habitant plus élevés, plus elle a une dette par habitant plus élevée. Et des petites communes de 300 ou 400 habitants, ben généralement, ils ont très peu de dettes parce qu'ils n'ont pas la capacité à s'endetter. Ni à se désendetter.
En gros, c'est le même principe que pour un particulier.
C'est le même principe que pour un particulier. Donc, finalement, une dette élevée serait plutôt signe de...
Serait plutôt bon signe, non?
Pas bon signe, mais signe d'une certaine richesse.
Par contre, il y a eu une forte évolution de cette dette entre 2011 et 2012. Comment l'expliquez-vous un petit peu?
On avait à financer à l'époque des investissements importants qui étaient l'école du Ponant. On n'avait pas emprunté dans un premier temps, on l'a fait ensuite, et ainsi que on avait fait un gros programme voirie, donc ce qui avait augmenté largement notre recours à l'emprunt. Ça, en fait, on avait voulu vendre du foncier pour pouvoir les financer. Ça n'avait pas été possible à l'époque, ce qu'on a fait dès cette année et qu'on va continuer dans les années qui suivent.
On est passé d'un peu plus de 8 millions à 13 millions entre 2011 et 2012.
Oui, c'est ça.
Comment expliquez-vous également l'évolution de l'annuité de la dette entre 2012 et 2013, passant de 1,2 million à 1,7 million?
On emprunte plus, donc on rembourse plus, tout simplement.
Et pour l'année 2014, l'Île-Dieu est à combien?
Ça, c'est, on parle de
toujours
capacité
de
désendettement. Alors, je vais quand même... l'annuité de la dette est à 1,8 million. Hein, et, Et sur l'année qui vient, elle sera à 1,7 million cette année. Elle va diminuer un petit peu. Oui.
Et la capacité de désendettement est de combien pour 2014, sachant qu'en 2013, l'Île-Dieu était à 10,4
En fait, c'était en 2014 sur les comptes de 2013. Mais je crois qu'il faut expliquer ce ratio parce que celui-là est pertinent. Celui-là est très pertinent.
Je vous en prie, Bruno Nourry.
il s'agit de notre capacité à se désendetter, donc sur notre capacité d'autofinancement. Grosso modo, ce qu'on dégage sur notre fonctionnement de l'année, ce qui nous reste à la fin de l'année, si on l'affectait complètement au désendettement de la dette, en combien de temps on rembourserait l'intégralité de notre dette? Donc ce ratio était 10,8 en 2014. Et en 2015, il est retombé à 9,5. Bon, c'est plutôt... ce ratio, il est plutôt regardé par les banques, par l'État. C'est bien d'être en dessous de 10. Alors, on savait qu'on avait été au-dessus pour les raisons que j'ai expliquées. Bon, sur l'année écoulée, on a réalisé un certain nombre de ventes, ce qui fait que dès cette année, on n'a pas recours à l'emprunt. Donc, c'est un ratio qui va être amené à continuer de diminuer.
Donc, les années de désendettement vont continuer à baisser, ce que vous essayez de nous dire.
Oui, alors, on le prend avec des pinces parce que...
Entre parenthèses, donc.
Oui, entre parenthèses, parce que on est dans un contexte budgétaire compliqué avec des dotations de l'État qui diminuent. Hein. On voit ça tous aux informations, à la télé, à la radio. Dans le cas de l'Île-Dieu, sur le budget à venir là, de 2015, c'est 170 000 euros de moins sur notre budget de fonctionnement. Ça va continuer pendant 3 ans, donc à une échéance de 3 ans, c'est 500 000 euros de moins. Il faudra qu'on fonctionne avec 500 000 euros de moins. Donc si on ne prend pas des mesures pour limiter notre fonctionnement et faire en sorte que notre CAF reste la même, ben le ratio risque d'augmenter. Donc à nous de préserver notre CAF, c'est-à-dire notre capacité à investir.
Et comment vous allez mettre en place cette mesure?
Alors il y a plusieurs choses. D'une part, j'évoquais les ventes de notre patrimoine, ou plutôt je préfère qu'on parle...
Vous avez leur peur aux auditeurs, les ventes de notre patrimoine.
Non, mais oui... Oui, je comprends que ça peut faire peur. Non, c'est plutôt une rationalisation du patrimoine immobilier de la commune, parce qu'on a énormément de biens. On doit avoir 70 immeubles, un certain nombre de terrains aussi, etc., qui nous coûtent cher en entretien. Donc, on a besoin de rationaliser ce patrimoine communal. Donc on a déjà commencé l'année dernière, puisqu'on a réalisé pour 1 800 000 euros de vente de ce patrimoine. Et on a deux choix avec le produit de cette vente. Soit on négocie avec les banques pour solder un certain nombre d'emprunts, ce qui n'est pas forcément simple parce que on est lié par des contrats, soit sur les investissements à venir, on se sert de cet argent et on n'emprunte pas. Enfin, dans tous les deux cas, ça va diminuer notre encours de dette. Donc si ça diminue notre encours de dette, ça diminue aussi les intérêts de la dette. Donc l'objectif, c'est que d'ici 3 ans, la diminution de ces intérêts d'emprunt diminue de un tiers de ces 100 000 euros. C'est un peu l'idée.
Est-ce que ça va être jouable, ça, par contre?
Oui, bien sûr, oui. Le deuxième tiers, on va dire, c'est on s'engage dans une démarche de station classée. L'objectif À terme, c'est de pouvoir disposer des droits de mutation en direct. Ce sont des taxes sur les ventes immobilières. Alors, artificiellement, dans les années 2008 à 2012, on est passé au-delà de 5000 habitants. Bon, c'était artificiel, mais on a pu bénéficier de ces droits de mutation en direct, ce qui fait que c'était une recette complémentaire d'environ 200 000 euros. Donc j'ai envie de dire que c'est le deuxième tiers, ça, hein, une échéance de 3 ans.
Et si on est en dessous de 5 000 habitants, ça part dans un pot commun ?
Ça part dans un pot commun qui est redistribué en partie. Qui est redistribué en partie.
En partie ?
En partie.
Et le reste de...
C'est les départements.
Vos départements, d'accord.
Ouais. Et le troisième tiers, c'est sur notre effort de gestion, à nous de serrer encore plus le fonctionnement. Ce qu'on a fait cette année, enfin, Carole et Bruno Chopin à côté de moi, qui ont fait un gros travail dans la commission finance pour contenir nos dépenses de fonctionnement. C'était un exercice difficile, hein, parce que faut tout éplucher, etc. Mais qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un budget qui tient la route.
Alors les dépenses de fonctionnement, on va y passer tout de suite. Ça a baissé, diminué, ça a un petit peu augmenté entre 2013 et 2014 ou entre 2014 et 2015. Carole ou
oui, non, mais
Bruno Chopin.
Par rapport aux dépenses de fonctionnement, alors elles seront stables en 2015 grâce, comme disait Bruno, à un gros travail dans la commission finance.
Et sur quel point avez-vous travaillé ?
Surtout sur le 011, on appelle ça le 011, c'est tout ce qui est général, par exemple le papier a diminué, des marchés communs entre les photocopieuses, voyez, ce genre de choses. Des trucs très basiques, mais si on fait des petites économies à droite, à gauche, et ben, à la fin, on fait des grosses économies.
Bruno Chauvin a peut-être quelque chose à rajouter ?
Oui, c'est vrai que ça a été un travail important avec les services et les élus. Il est important que tout le monde prenne compte de cette nécessité de maîtriser les budgets pour que ce soit vraiment un travail qui aboutisse. Donc, effectivement, sur le 011, aussi sur la masse salariale, un travail qui a été fait pour affiner, notamment sur les saisonniers, par exemple.
Et donc, ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'il y aura moins de saisonniers pour l'année et les années suivantes.
Il y a un petit peu moins de saisonniers, c'est-à-dire qu'on adapte les ressources aux services qu'on veut apporter. Et donc, en faisant ça, ben, on répond au plus juste et on cerne notre besoin et on cerne les finances publiques à affecter à ces besoins.
Bruno Noé, peut-être quelque chose à rajouter par rapport aux emplois de la mairie de Lille-Dieu ?
Non, les emplois en général, notre masse salariale l'année dernière a diminué un petit peu. C'était un peu exceptionnel parce qu'on avait eu pas mal de départs. Donc ce qui avait fait qu'on a diminué un peu artificiellement cette masse salariale. Il y a eu ce travail là cette année autour des saisonniers qui n'est pas seulement une diminution en nombre, mais des fois c'est des adaptations d'horaires tout simplement. Mais là où la mairie a un petit peu la main sur ses marges de manœuvre, c'est effectivement ses charges de fonctionnement, que ce soit les charges à caractère général ou les charges de personnel. Néanmoins, c'est des charges avec une inertie forte, donc on ne supprime pas des choses comme ça. Il y a quand même des services à faire fonctionner, donc ce n'est pas forcément très simple. Et moi, je salue le travail de l'ensemble des services et des élus sur cette question, parce qu'on arrive encore une fois à avoir un budget cohérent et crédible.
Et les charges de fonctionnement représentaient en 2013 1913 euros, alors que la moyenne nationale était à 697 euros. D'où vient cette différence, par contre ?
Alors,
les chiffres sont précis.
Oui, parce que si on prend une moyenne nationale, c'est une moyenne des communes. Or, la commune moyenne en France, elle fait 600 ou 700 habitants. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des communes avec des petits budgets ramenés à l'habitant. Si vous prenez des grosses communes comme Paris, vous allez avoir des sommes qui sont bien au-delà des nôtres. Bon, au-delà de la comparaison, qu'est-ce qui fait que l'île-Dieu peut avoir des charges de fonctionnement qui sont un peu différentes de celles qui sont ailleurs? Bah, d'une part, notre insularité, hein, qui fait qu'on cumule un certain nombre de services, hein, des charges qui sont plus chères, parce que on le sait, la vie sur l'île est un peu plus chère que sur le continent, donc pour la commune, c'est aussi pareil.
Un petit peu, voire beaucoup plus cher, voire pour certains services.
Ça dépend quoi, hein. Il y a notre électricité, le même prix que sur le continent, mais...
L'essence, par exemple.
L'essence, par exemple, ouais. L'essence, le fuel domestique, j'en passe, hein. Après, il y a aussi le fait qu'on ne soit pas en intercommunalité. Quand on se compare à une autre commune, généralement, celle-ci est en intercommunalité avec des services qui sont transférés, donc qui ne sont pas dans leur budget principal. Et là encore, moi, je n'aime pas trop la comparaison ramenée à l'habitant, parce que, vous voyez, il y a des communes qui ont, par exemple, leur budget ordure ménagère qui est dans leur budget principal. Nous, c'est un budget annexe. Si on le rajoutait sur notre budget principal, la somme serait plus élevée. Pour autant, on a aussi par exemple le cinéma qui est en régie, qui est lui sur le budget principal.
Le cinéma est géré par la mairie, on l'appelle.
Est géré par la mairie. Et c'est un budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes, mais qui gonfle nos chiffres d'environ 200 000 euros. Donc ça fait, on va dire, 40 euros par habitant. Ça fait fluctuer les chiffres. Et le chiffre en lui-même ne veut plus rien dire, quoi, hein. Donc il faut faire attention, parce que ok, on a des budgets élevés en termes de dépenses amenées à l'habitant, mais on a un budget élevé aussi en termes de recettes amenées à l'habitant, et l'important, c'est les marges de manœuvre qu'on dégage pour pouvoir investir, et c'est ça qu'il faut préserver.
Par contre, les charges de personnel communaux, c'est la plus grosse dépense, non?
Oui, mais c'est le cas dans toutes les communes. On doit être un peu en dessous de 50% de nos charges de fonctionnement liées au personnel.
Vous nous parlez pour 2014?
50%? Non, mais globalement, je suis de ça de mémoire, hein, mais... c'est le cas d'un petit peu toutes les communes. On est peut-être un peu au-delà, parce qu'il y a des choses que fait la commune de l'île-Dieu que d'autres sous-traitent. On est obligé de cumuler un certain nombre de compétences, notamment aux services techniques, pour ne serait-ce que de la maintenance de certains équipements, ou sur le continent, on a affaire à des entreprises qui on sous-traite
externe,
à des entreprises. Là, on demande d'avoir ces compétences-là en interne. On fait un certain nombre de travaux en régie aussi. On a, par exemple, un service patrimoine qui est assez développé avec des guides. Alors, une commune qui a pas de visite touristique à faire, ben, elle ne les a pas. Mais bon, là, on a des recettes en face, etc. Donc, c'est très difficile de se comparer et de se dire où est la masse salariale, elle est à 50% du budget, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Faut éviter d'avoir un jugement hâtif sur cette question-là.
Bruno Chopin, peut-être quelque chose à rajouter? Ou Carole Charbot, bien sûr.
Oui, bien sûr. Carole, je ne veux pas brûler la politesse, hein. Donc, l'île-Dieu fait partie de ce qu'on appelle des communes isolées. C'est-à-dire qu'effectivement, elles sont considérées comme étant difficilement comparables avec d'autres communes. Donc ça vient renforcer ce que disait Bruno Nourry sur le fait que les chiffres sont parfois difficilement comparables d'une commune à une autre, et en plus quand on a affaire, comme c'est le cas ici, à une commune donc qu'on appelle isolée.
Isolée, on pense notamment à la Corse, mais sauf qu'il n'y a pas le même nombre d'habitants.
Ah non, c'est pas une commune isolée, y a plein de communes en Corse, ils sont en interco, etc.
Ok, d'accord. Donc j'ai dit une bêtise.
Les communes isolées, ça va être Ouessance, hein, je crois qu'il y a une commune dans l'Ariège, enfin, et maintenant que toutes les communes continentales sont obligées d'intégrer des intercos, ça devient compliqué. Il y a quelques communes dans la couronne parisienne, je crois aussi.
Je crois qu'il y en a 16 en tout.
Ouais, c'est ça, ouais.
En France.
Ouais. Donc, pas avec les mêmes populations, pas avec les mêmes problématiques. Donc, c'est compliqué de se
comparer. C'est dur de comparer.
Oui, et puis, encore une fois, s'il fallait se comparer effectivement avec des communes d'en face, il faudrait intégrer dans l'analyse les budgets de leurs intercos dans ces communes. Sinon, c'est pas comparable.
Carole, quelque chose à rajouter peut-être ?
Oui, je voulais dire, oui, c'est ça. Dans l'intercommunalité, en fait, par exemple, on aurait la salle des fêtes, par exemple, le cinéma, toutes ces choses, nous, on est obligé de les prendre à bras le corps et puis les financer.
Ouais, on est obligé de suréquiper en quelque sorte.
Vous êtes obligé de suréquiper l'Île-Dieu pour qu'elle soit vivante, c'est ce que vous essayez de nous
oui,
dire.
Oui, oui, parce que si on veut apporter les mêmes services, c'est ça.
Mais il faut les mêmes services, de toute façon.
Il faut, c'est compliqué.
C'est compliqué, oui.
Ah oui, mais il y en a qui nous diront, ah oui, mais à quand la piscine, par exemple.
J'allais le dire.
Mais non, toute raison gardée, il faut qu'on ait effectivement un certain nombre de services à offrir à la population. Et souvent, comme disait Carole, ces services sur le continent, ils sont mutualisés. Nous, on est obligés de les porter. Voilà, l'équation est un peu plus compliquée chez nous qu'ailleurs.
Vous nous avez donné l'exemple de la piscine. La piscine plomberait les finances de la mairie.
Ah bah largement, oui. Enfin, une piscine telle que l'entendent les gens, donc un bassin de 25 mètres... avec son fonctionnement et son investissement. Un investissement, c'est, l'ordre d'idée, c'est environ 5 à 6 millions d'euros qui ne seraient pas subventionnés. Donc tout à l'heure, on parlait de dette, on a un niveau assez conséquent de dette. Là, on l'exploserait carrément. Et puis, en fonctionnement, il faut compter un déficit de fonctionnement de 200 à 300 000 euros par an. Ce qui est seulement impossible à l'heure actuelle.
Par rapport aux recettes entre 2013 et 2014, comment ont évolué les produits de fonctionnement pour la mairie de l'Île-Dieu ?
Alors, c'est un peu compliqué à lire parce que, en fait, nos recettes ont explosé parce qu'on a fait ces ventes de foncier. Donc on a un résultat comparable, ce qu'on pourrait appeler un résultat d'exploitation qui est très très élevé, mais qui est artificiellement élevé parce que ces ventes de terrain passent par le budget fonctionnement et ils sont pas dans le budget investissement. Donc ça fausse un peu la lecture du compte de résultat. Globalement, on est... on a plutôt serré nos dépenses, optimisé nos recettes, ce qui fait qu'on a dégagé une capacité d'autofinancement qui est plutôt intéressante.
Bruno Chopin, quelque chose à rajouter par rapport à cette question peut-être ?
On peut noter quand même une dynamique des bases fiscales qui est intéressante.
Une dynamique des bases fiscales.
Oui, c'est-à-dire que les bases fiscales progressent d'une année sur l'autre simplement parce qu'il y a des travaux, il y a des constructions nouvelles. Et donc, sans que l'usager, le contribuable, voit sa feuille d'impôt augmenter, le fait qu'il y ait des constructions nouvelles ou des agrandissements de constructions existantes fait que les ressources de la commune évoluent positivement. Donc là, on peut noter une évolution d'environ 3% cette année.
Donc, est-ce que les impôts locaux et la taxe foncière va augmenter ?
Alors, on est malgré tout, même s'il y a cette dynamique, c'est vrai que nos charges de personnel mécaniquement augmentent parce qu'il y a des revalorisations salariales, ne serait-ce qu'obligatoires. Il y a ces baisses de dotation de l'État qui sont importantes. Alors tout à l'heure.
Et puis il y a aussi des dépenses d'investissement qui sont imprévues, genre le centre technique municipal par exemple. Mmh. Voilà, c'est des choses que on est obligé de faire et il faut bien trouver des sous derrière.
Et quand on parlait de notre équilibre, préserver notre capacité d'autofinancement. il faut qu'à une échéance de 3 ans, on ait trouvé ces fameux 500 000 euros. Quoi. Donc, on disait, c'est par désendettement, par... concernant le foncier,
hein, la vente de biens,
la vente de biens, ce qui va nous permettre de baisser les intérêts des emprunts de l'ordre d'un tiers de ces 500 000 euros. C'est l'affaire de la station classée qui va peser elle aussi pour grosso modo un tiers. Et le dernier tiers, c'est sur des efforts de gestion. Et parmi ces efforts de gestion, et les efforts de gestion en dépenses, mais aussi en recettes, donc on a choisi d'augmenter les bases de 1%.
Alors, les taux.
Les taux, oui, les taux. Les taux de 1%, bon, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, qu'on le fait avec la plus grande parcimonie. Sur ces 15 dernières années, les taux ont très très peu augmenté. Là, il s'agit d'une augmentation de 1% de ces taux. Et ces 1% vont peser pour en gros 50 000 euros. Et ces 50 000 euros représentent que finalement 10% de ce que l'État va nous amputer en termes de dotation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la baisse des dotations de l'État, on ne la compensera pas par les impôts locaux, on la compense à hauteur de 50 000 euros seulement, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas le cas des communes d'en face. Enfin,
Saint-Gilles. Vous nous avez parlé en antenne de Saint-Gilles.
Oui, Saint-Gilles qui a augmenté.
Ils vont peut-être bondir en entendant ça.
Mais bon. Oui, mais il me semble que moi j'ai entendu dire. Enfin, j'ai plus le chiffre en tête, donc je ne vais pas raconter de bêtises, mais l'ordre d'idée c'est de 30 à 40%.
Mm-hmm. C'est énorme.
Ouais. La communauté de communes des Sables d'Olonne, c'est 25%. Enfin, on est sur autre chose. Là, je crois que on est dans de la gestion rigoureuse de nos budgets, qui est pas simple, qui est compliqué, qui demande de l'attention. Mais à l'arrivée, pour faire une augmentation du taux de 1%, donc c'est très 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 mesuré.
1% en 2015, et après, les années suivantes, ce sera 1%, ou peut-être pas d'augmentation, vous ne savez pas, pour l'instant ?
On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on peut avoir des surprises, comme disait Carole, il peut y avoir des événements imprévus. L'idée, c'est de faire ce 1%-là, et de ne pas trop y revenir après. Quoi.
Bruno Chemin, peut-être quelque chose à rajouter, non ?
Toujours.
Mais il faut, allez-y, je vous en prie.
On a travaillé avec Finance Active, qui est une entreprise de consultants finance, qui nous accompagne sur la construction d'un plan pluriannuel d'investissement, parce qu'il est nécessaire, dans ces circonstances quand même un peu tendues au niveau budgétaire, il est nécessaire d'anticiper, et pour éviter justement les à-coups dont vient de parler Bruno Nourry. Si on veut avoir une gestion rigoureuse et saine, il faut absolument anticiper, et cet outil-là nous permet de nous projeter dans l'avenir. Bon, il y a eu un début de travail de fait, et il sera poursuivi dans le courant de l'année 2015.
Carole, peut-être quelque chose à rajouter ?
Non, pas vraiment. Je pense que tout a été dit. On essaye en tout cas d'avoir une gestion rigoureuse au sein de la mairie. Hein. On ne dépense pas pour dépenser, on essaye d'être rigoureux. Je crois que c'est ça le mot, c'est la rigueur.
En 2013, les ressources d'investissement diminuent. C'est aussi le cas en 2014, et la tendance pour 2015 sera identique.
Les ressources d'investissement ?
D'investissement, oui.
D'investissement. Bah, les ressources d'investissement, elles sont composées de plusieurs choses, hein, ce qui nous permet d'investir. Donc, d'une part, c'est la capacité d'autofinancement. On a des subventions qui viennent dessus. Il peut y avoir...
Mais on rappelle que les subventions baissent. Non.
Non. Les dotations de fonctionnement.
C'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Les subventions, c'est quand, par exemple, on réhabilite l'église de Saint-Sauveur, il y a différents organismes qui nous apportent des concours financiers pour le faire. Donc ça rentre dans notre budget d'investissement. On a aussi le FCTVA. Alors, c'est. Oui, je m'explique. C'est la TVA sur nos investissements qui nous est reversée l'année suivante. Enfin, maintenant l'année suivante, pas en totalité, mais en partie. On peut aussi avoir recours à l'emprunt bancaire. Donc, c'est sur cette partie-là qu'on n'aura pas recours sur l'emprunt bancaire. Maintenant, les ressources d'investissement, on les fait corréler à notre besoin d'équipement et donc sur les emplois qu'on va en faire. Et donc ça fluctue d'une année sur l'autre. J'ai envie de dire, ça dépend des projets, ça dépend de pas mal de paramètres. Quand on a un dossier important, je parlais de l'église de Saint-Sauveur, par exemple, c'est certes un investissement conséquent, mais il y a des subventions conséquentes derrière. Donc, si on fait des investissements concernant la voirie, on n'a pas de subventions à la clé. Donc, c'est des montants qui sont plus faibles. Donc, c'est compliqué aussi de comparer un budget investissement d'une année sur l'autre. Malgré tout, je crois que ces dernières années, la commune de Lisieux a beaucoup investi et c'est plutôt la marque d'une commune dynamique.
Il y a aussi des emprunts toxiques. Il y a eu une polémique là-dessus, si vous voulez nous en parler. Ça vous fait sourire.
Oui, ça me fait sourire parce que d'une part, ça a été beaucoup monté en épingle. En fait, ça concerne un emprunt. C'est un emprunt dit structuré. Alors, qu'est-ce qu'un emprunt structuré ? C'est un emprunt à taux variable. Voilà. Ce taux variable, contractuellement avec l'établissement bancaire, il peut être assis sur différents paramètres. Alors, au niveau national, ça a beaucoup fait hurler quand on s'est aperçu que certaines collectivités locales avaient choisi comme taux variable une indexation sur le cours d'échange de monnaie, quoi. La différence entre l'euro et le franc suisse, par exemple. Donc, c'était d'une certaine manière une spéculation sur les monnaies. Et c'est pas quand même pas le métier des collectivités locales de faire ça. Alors, et aujourd'hui, certaines collectivités qui ont des emprunts structurés à risque se retrouvent avec des taux qui explosent 15, 20, 30% de... Donc, nous, c'est pas notre cas, encore une fois. On avait un emprunt structuré qui a été fait à la fin des années 90. Et en 2006, en fait, l'indexation faisait qu'on payait 10% d'intérêt. Donc, on avait renégocié à l'époque avec la banque.
Vous pouvez nommer la banque, allez-y. Hein.
Bah, c'était Dexia. Hein, c'était la banque des collectivités locales, mm-hmm. Je veux dire, il n'y avait pas de honte à ça. Donc on a renégocié avec Dexia, mais comme c'était déjà un emprunt structuré, donc indexé, il ne voulait pas qu'on passe sur un taux fixe. Donc on a été obligé de renégocier en gardant un taux variable. Et ce taux variable, en fait, il bouge, parce qu'il est fixe, mais il bouge si le loyer de l'argent à 20 ans s'inverse par rapport au loyer. Le coût du loyer de l'argent à 20 ans s'inverse par rapport au coût du loyer de l'argent à 2 ans. Et autrement dit, c'est un taux qui ne fluctue pas, ou très peu. C'est un taux aujourd'hui qui est aux alentours de 3,5.
3,75,
c'est ça. Qui n'a pas évolué même au pire moment de la crise financière. Et si en 2006, on avait emprunté à taux fixe, ça aurait été au-delà de 5%. Donc, l'emprunt toxique, jusqu'à maintenant, il a fait gagner de l'argent à la commune. Donc, quand certains nous attaquent dessus, il faut savoir de quoi on parle. Néanmoins, et ça reste un emprunt à risque, puisque le taux est variable, et celui-ci n'aurait pas trop de pénalités financières si on le renégociait pour le passer à taux fixe, qui serait un taux un peu plus élevé Et on est en train d'étudier malgré tout cette question. Mais encore une fois, la commune de Lisieux n'a pas perdu d'argent relativement à cet emprunt. Que les choses soient claires.
Bruno Chopin, peut-être quelque chose à rajouter ?
Ben, on est en discussion avec l'ASFIL, qui est la Société française d'investissement local, au sujet de l'éventuelle reprise de cet emprunt. C'est une structure qui a été mise en place par l'État français pour prendre la suite de d'Exia, justement, et être l'interlocuteur des communes. Là, on vient de déposer un dossier de demande d'aide au fonds de soutien qui a été mis en place par l'État aussi. Donc, suivant les résultats, on prendra les décisions qui s'imposent. Mais c'est vrai que le risque... On est dans classé. Il faut savoir que sur la charte Gisler, qui est la charte des niveaux de risque, on est sur le niveau 3E, qui est la première marche, donc le premier niveau de risque.
Il y en a combien de niveaux de risque ?
Il y en a 7. Et sur ce premier niveau de risque, compte tenu des clauses dont a parlé Bruno Nourry, effectivement, le risque aujourd'hui, il est extrêmement faible.
En vous écoutant parler, on a l'impression que la commune de Lisieux a un financement plutôt sain, non ?
Oui, globalement, parce que, bon, quand...
Ça va peut-être faire bondir quelques auditeurs.
Il faut le dire, on est plutôt sur des taux fixes, donc... on n'a pas spéculé sur nos emprunts, donc voilà, et puis encore une fois, c'est cet emprunt structuré, à la base, c'est pas nous qui l'avons contracté.
C'était qui ?
Ouais, je veux pas incriminer. Ça se faisait à l'époque. C'était dans l'air du temps. Donc, ça aurait été nous. Peut-être qu'on l'aurait fait aussi. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je veux pas incriminer.
Vous voulez pas jeter la pierre. Ouais.
Non. Encore une fois, en 2006, il fallait le renégocier parce qu'on était passé au-delà des 10% de taux d'intérêt. Depuis, on est à 3,75 et on n'est pas... c'est pas le drame annoncé. Et regarder les finances de la commune au travers uniquement cet emprunt, je trouve ça quand même un peu petit.
Bruno Nourry, maire de Lisieux, Bruno Chopin, chef des services à la mairie de Lisieux, ou Carole Charrouault, conseillère municipale, quelque chose à rajouter avant de te dire au revoir ?
Oui, on a eu nos débats d'orientation budgétaire, donc qui engage la commune sur nos prévisions d'investissement à venir. Ça permet de faire le point sur l'état aussi de nos finances. Et 15 jours après, on a voté notre budget. Et donc cette réunion s'est plutôt très très bien passée. Et je suis ravi de voir aussi que l'opposition municipale a voté notre contrat administratif, donc on donne quitus au maire pour sa gestion. Donc c'est parfait. Merci.
Bruno Chopin, quelque chose à rajouter avant de te dire au revoir ?
Non, je vous remercie. C'est toujours intéressant de pouvoir parler un peu de finances en essayant d'avoir une approche pédagogique, que les auditeurs comprennent de quoi on parle. J'espère que ça a été le cas.
Carole Charrault, avant de te dire au revoir. Le mot de la fin.
J'espère qu'on se reverra bientôt pour un autre, peut-être un autre thème, ou même celui-ci. C'est avec plaisir qu'on viendra vous expliquer ce qu'on fait en mairie.
Merci à vous trois d'être venus sur l'antenne de Neptune FM. À très bientôt.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
La mairie vous répond, le nouveau rendez-vous des élus de Lisieux. Réagissez, posez vos questions et réécoutez l'émission sur neptunefm.com.